Poésie présente Héros d'un jour de Daniel Steele. Lu par Slimane Yefsa. À mes merveilleux enfants que j'aime tant, Bitty, Trevor, Todd, Nick, Sam, Victoria, Vanessa, Max et Zara. Vous êtes et vous serez toujours mes héros. Vous avez fait face aux défis auxquels nous avons été confrontés avec sang-froid, dignité, courage et grâce. Vous avez mon amour et mon admiration en toutes circonstances et pour toujours. Je vous aime tant. Maman. Daniel Steele. Cher lecteur, écrire Héros d'un jour s'est révélé aussi stimulant que passionnant en raison des multiples niveaux d'action et des relations entre les personnages. Ce roman m'a aussi permis d'évoquer les défis de nos voyages aériens. Il nous rappelle le nombre d'organismes chargés d'assurer notre protection lorsque nous nous déplaçons. Il peut nous arriver une mésaventure absolument partout. On peut glisser dans sa baignoire ou se prendre les pieds dans son chien en le promenant. En revanche, quand nous passons le contrôle de sécurité de n'importe quel aéroport, quel que soit notre agacement au moment d'enlever nos chaussures, d'attendre pour récupérer le bac où on doit déposer nos affaires, nous avons tendance à oublier que ces mesures sont prises pour garantir notre sécurité et pas pour nous embêter. Aux États-Unis, la sûreté aéroportuaire surveille tout ce qui se passe dans l'aéroport, tandis que la sécurité intérieure et tous les organismes fédéraux, tout le personnel hautement qualifié qu'ils emploient, agissent comme des anges gardiens. Nous ne les voyons pas, mais ils veillent sur nous avant le décollage, pendant le vol et jusqu'à ce que nous ayons quitté l'aéroport une fois arrivés à destination. Voilà qui est extrêmement rassurant. Si jamais il se produit quelque chose d'inattendu ou de suspect, de nombreux organismes et experts entrent en jeu pour résoudre le problème avant que cela tourne mal. Il ne faut pas l'oublier. Je suis fasciné par les différents maillons impliqués, tout autant que par les personnages de ce livre. Le responsable de la sécurité intérieure à l'aéroport JFK, un homme extrêmement compétent dont la confiance a été ébranlée par un incident et qui n'a plus droit à l'erreur. La psychiatre qui aide à évaluer les situations de crise, la jeune agente bardée de diplômes mais sans expérience, l'employé de l'administration de la sécurité des transports, jeune mère célibataire, elle a l'intelligence et le courage de suivre son instinct. Les passagers, la police, les agents fédéraux, l'extraordinaire pilote, une vétéran de l'armée de l'air, l'équipage et les passagers de l'avion. J'aimerais aussi souligner le fait que nous ne savons jamais à l'avance comment nous allons réagir dans une situation inhabituelle. Les plus doux d'entre nous peuvent faire preuve d'un courage de lion. Dans des circonstances tragiques, nous nous découvrons parfois des ressources que nous ignorions posséder. Beaucoup d'entre nous se révèlent héros malgré eux au moment où ils s'y attendent le moins. J'espère que vous apprécierez les êtres que vous allez rencontrer au fil de ce livre et tout le réseau de personnes qui font leur travail avec un talent remarquable en plein cœur d'événements difficiles. Bonne lecture. Amitié, Daniel Steele. Chapitre 1. Comme presque chaque jour, Bernice Adams ouvrit les yeux juste avant la sonnerie du réveil. Elle ne voulait pas réveiller Toby, son petit garçon de 6 ans. C'était comme si l'instinct maternel l'attirait du sommeil juste avant le déclenchement de l'alarme. Elle sourit en le regardant dormir à côté d'elle dans ce grand lit qu'elle avait eu la chance de trouver d'occasion. Elle avait tout de même acheté un matelas neuf. Ils l'avaient essayé ensemble et Toby l'avait trouvé moelleux comme un nuage. C'était une grosse dépense pour son budget serré, mais le sacrifice en valait la peine. Il fallait que Toby arrive à l'école reposé afin d'être attentif et bien travaillé. Elle voulait qu'il ait toutes les chances pour réussir. Quant au reste, elle était parvenue à décorer son petit deux pièces avec des meubles de récupération, parfois à trouver dans la rue le jour des encombrants. Elle avait l'impression de jouer à la chasse au trésor, et elle avait réussi à y dénicher ses tables de chevet, une commode bleue et la table sur laquelle ils prenaient tous leurs repas. Le formica s'écaillait un peu dans les coins, mais ce rouge vif égayait leur minuscule cuisine. Elle avait repeint elle-même les murs et certains meubles. Le tapis, lui, venait d'un magasin de seconde main. L'ensemble était accueillant et chaleureux. Pour faire plaisir à Toby, elle avait encadré dans la chambre des affiches de Spider-Man et au-dessus du lit, une autre de Batman et Robin. Elle élevait son fils seul. Le père l'avait quittée quand elle était tombée enceinte à 19 ans, époque à laquelle elle était serveuse le jour et suivait les cours du City College de New York le soir. Elle ne l'avait jamais revu, mais avait entendu dire qu'il s'était marié et avait eu 3 autres enfants. De toute façon, elle ne souhaitait plus avoir aucun contact avec ce baratineur que sa grossesse imprévue avait fait fuir sur le champ. Elle avait donc eu Toby à 20 ans et se débrouillait pour l'élever seule depuis. Mais Bernice ne se laissait pas abattre. Elle voulait faire quelque chose de sa vie et montrer l'exemple à son fils. Elle tenait surtout à ce qu'il sache qu'il ne devait pas se laisser brider par son milieu d'origine. S'il faisait des études, il pourrait avoir un bon métier et une vie agréable un jour. C'était ce à quoi elle aspirait elle-même. Bernice était passée de famille d'accueil en famille d'accueil après la mort de ses parents lorsqu'elle était préadolescente. Certaines étaient épouvantables, d'autres tout à fait correctes. Quoi qu'il en soit, elle était bien décidée à ce que son fils ne connaisse pas le même sort. Sa famille se réduisait à son frère, Clive, qui, depuis ses 18 ans, il en avait maintenant 30, faisait des allers-retours en prison pour fraude à la carte de crédit, vol de voiture ou trafic de drogue. C'était ainsi qu'il avait appris à gagner sa vie dans la rue. Elle ne l'avait pas revu depuis 10 ans, pendant une libération sur parole, et préférait que ça reste comme ça. Il ignorait même qu'il avait un neveu. Clive n'était pourtant pas un mauvais bougre. Il avait même été plutôt gentil avec elle, dans la mesure de ses possibilités. Mais il n'avait pas su se tirer du piège dans lequel il avait été élevé. Bernice et son fils vivaient sur la 125e rue, dans un immeuble propre et occupé par des familles respectables. Il avait même dû être assez beau à l'époque de sa construction, dans les années 1930. Sauf que les grands appartements de standing avaient été morcelés et que les précédents occupants qui pouvaient se le permettre s'étaient rapprochés du centre. D'autres immeubles avaient été rénovés à mesure que le quartier s'embourgeoisait et elle avait eu de la chance de trouver un appartement qui rentre dans son budget. Son salaire lui permettait tout juste de se débrouiller. À la fin de ses études au City College, elle avait intégré la TSA, l'Administration de la Sécurité des Transports, à l'aéroport international JFK de New York. Depuis 5 ans, elle y contrôlait les passagers qui franchissaient la sécurité, les observait attentivement, les guidait vers les portiques et procédait à des palpations. Elle suivait en même temps des cours de droit en ligne. Pour Bernice, les études et les efforts étaient la clé de tout. Personne ne l'en priverait. Et elle ne manquait jamais une occasion de le rappeler à Toby, tous les jours, si c'était possible. C'était dur de sortir du lit, de se détacher de son petit corps chaud niché contre son dos. Elle se leva néanmoins pour se préparer. En partant, à 4 heures, elle déposerait Toby chez sa voisine, qui l'emmènerait à l'école avec ses enfants. Bernice travaillait de 5h30 à 13h30, ce qui lui laissait juste le temps d'aller le chercher à l'école pour passer la fin de la journée avec lui. Elle lui apprenait des choses qui n'étaient pas encore au programme, puis faisait ses propres devoirs avant de préparer le dîner et de le mettre au lit. Elle tâchait de se coucher à 21h30 ou 22h pour arriver à se lever à 3h30. Elle prenait son petit déjeuner dans le train pour gagner du temps, ne sortait jamais et n'avait pas vu un film depuis des années. Son existence se résumait à son fils, son travail et ses études, grâce auxquelles un jour, ils auraient une vie meilleure. Ils en parlaient d'ailleurs beaucoup, même si Toby n'avait que 6 ans. Ils avaient presque des conversations d'adultes, et elle lui avait expliqué que, une fois diplômée, elle pourrait devenir avocate et entrer dans un cabinet réputé. C'était son rêve.